Bonjour. Je vous invite tout d'abord à la prière. Seigneur, ta parole est la vérité. Sanctifie-nous par ta vérité. Seigneur, tu connais les besoins de chaque assemblée. Tu connais les besoins de cette assemblée et même des visiteurs qui ne sont pas membres de cette assemblée. Tu es notre créateur. Tu n'es pas seulement le créateur du monde de façon générale, mais tu es aussi celui, le Dieu Tout-Puissant, qui a voulu faire l'homme à ton image. Il n'y a rien dans cet univers qui a été fait à ton image, si ce n'est nous. Merci pour cet honneur. Merci d'avoir fait de nous, quelque part, le couronnement de ta création. Et merci encore plus de nous avoir donné un sauveur parfait qui est le couronnement, qui est ce qu'il y a de plus précieux dans le ciel. Seigneur, je te demande que tu nous montres Christ, et qu'à mon propre cœur, tu montres Christ. Seigneur, je te demande une œuvre particulière de ton Esprit Saint, parce que tu promets dès l'Ancien Testament que cet Esprit témoignera de toute la vérité, que cet Esprit écrit la loi, ta sainte loi dans nos cœurs, transforme nos cœurs de pierre en cœurs de chair. Alors Seigneur, je te demande que tu œuvres dans nos cœurs et dans le mien le premier. Je te prie que tu nous aides à rester attentifs. Je te prie que tu sois particulièrement à l'œuvre par ta parole. Parce que nous ne sommes rien, mais ta parole, c'est le moyen que tu as décidé de tout ce qui était possible. C'est le moyen que tu as décidé pour nous d'utiliser pour notre instruction, pour notre croissance, pour augmenter notre amour et notre foi. Alors Seigneur, je te demande d'être à l'œuvre. Amen. Alors je vous invite de sitôt à ouvrir vos Bibles dans Romains chapitre 12. En fait, nous commencerons la lecture au chapitre 11, au verset 33, et nous irons jusqu'à la fin du chapitre 12, donc le verset 21. Romains 11, 33, 12 à 21. Donc, si vous fréquentez les milieux chrétiens depuis plusieurs années, vous êtes forcément entré en contact avec l'un de ces trois types de personnes, ou très probablement que l'un de ces trois types de personnes que je vais décrire, c'est une réalité qui a été la vôtre ou qui est peut-être la vôtre aujourd'hui. Alors le premier, c'est celui que je vais appeler le chrétien paumé, celui qui, une fois devenu chrétien, une fois passé par les eaux du baptême, se retrouve un peu livré à lui-même, sans trop savoir se diriger dans un monde qui le bombarde de mensonges et de messages aussi différents les uns que les autres, sans trop savoir ce que Dieu a à lui dire concernant sa vie relationnelle, sociale, professionnelle, la vie d'église, grandir, comment partager l'évangile. Ça, c'est le chrétien paumé. Deuxièmement, celui que je vais appeler le libertin chrétien, celui qui a bien compris que la foi seule suffit pour être sauvé, mais qui n'a pas compris que la vie chrétienne est une vie radicale. Il a bien compris que Jésus-Christ est mort à la croix pour le pardon de ses péchés, mais il n'a pas compris que avec le pardon des péchés, Jésus a promis que s'il y a véritablement salut, il y a le Saint-Esprit qui descend sur cet homme et qui fait qu'il n'est plus esclave du péché. Pas qu'il ne va plus jamais pécher, mais qu'il passe d'un état non seulement de condamné à justifié, mais d'esclave à libre pour servir Dieu. Le chrétien libertin n'a pas compris ça. Et le troisièmement, c'est peut-être celui qu'on retrouve le plus souvent, en particulier quand on essaye d'être un chrétien sérieux dans notre vie chrétienne, c'est le pharisien évangélique. Celui qui est visiblement investi dans l'Église, mais dont trop souvent l'investissement n'est pas motivé par la grâce et l'œuvre intérieure du Saint-Esprit, mais par le désir de se rassurer qu'il a de la valeur aux yeux de Dieu, aux yeux des hommes ou à ses propres yeux. Le pharisien évangélique a énormément de peine dans sa dévotion personnelle et son cœur n'est que trop peu réchauffé par le feu de l'évangile et l'amour du Seigneur. Le pharisien évangélique, il trouve plus de satisfaction et d'assurance, de sens à sa vie chrétienne et de joie dans ce qu'il fait ou dans ce qu'il essaye de faire, plutôt que de trouver sa joie et son assurance dans ce que Jésus-Christ a fait une fois pour toutes il y a 2000 ans. La parole de Dieu contient le remède à ces trois problèmes. Je vous dis tout de suite, le plan, ça ne va pas être « je vais prendre chaque problème », on va plutôt exposer qu'est-ce que c'est plutôt la véritable vie chrétienne, et c'est une vie d'adoration. Et le texte de la parole de Dieu aujourd'hui répond à plusieurs questions. Maintenant que nous sommes chrétiens, adoptés dans la famille du Dieu vivant, comment devons-nous vivre ? Puisque, comme le dit Paul en Romains 8 et Romains 9, puisque Dieu nous a connus avant la fondation du monde, puisqu'il nous a prédestinés à être à l'image de son Fils, puisqu'il nous a appelés, puisqu'à cause de sa grâce, nous avons répondu à son appel, puisqu'en ayant répondu à son appel, il nous a pardonnés, il nous a adoptés, il nous a justifiés, qu'est-ce que ça va changer dans ma vie quotidienne ? C'est la question. Quels fruits devrais-je m'attendre à voir dans ma vie ? Ces questions sont très importantes aussi. Si vous avez fréquenté des églises ou d'autres églises, peut-être que vous avez remarqué que la plupart des gens qui quittent les assemblées, que ce soit des croyants professants ou des gens qui essayent de s'intéresser, pourquoi ils ne restent pas ? Soit parce que la transformation n'est pas visible dans la vie de ceux qui disent avoir reçu ce message, soit parce que ceux qui croient avoir reçu ce message, en fait, ne voient pas qu'est-ce que ça change. Et évidemment, nos contemporains, quand ils vont dans un endroit, quand ils essayent quelque chose de nouveau, un peu comme le témoignage qu'on a entendu, le glorieux témoignage qu'on a entendu tout à l'heure, dire qu'est-ce que ça change ? Si ça ne change pas, pourquoi je vais perdre mon temps ? La vie chrétienne, la vraie vie chrétienne, transformée, comme je l'ai dit au début, c'est une vie motivée par l'amour. Et plus précisément, je vais employer le mot « l'adoration ». Dieu seul est digne d'adoration. Et c'est cette adoration qui va nous aider à avancer dans notre vie chrétienne. Sans cette adoration, on va tomber dans les trois cas, avec lesquels j'ai commencé ce message. Soit on va très vite être essoufflé, très très vite. Plutôt que de limiter l'adoration à un moment particulier du culte, je vous propose cette définition. L'adoration est l'amour que le chrétien porte et manifeste constamment envers son Dieu, en se soumettant à son Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, et en lui donnant les honneurs qui lui sont dus. Je vous invite à la lecture. Romains 11, à partir du verset 33. Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la connaissance de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. En effet, qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller ? Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour ? Tout est de lui, par lui et pour lui. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun d'entre vous de ne pas avoir de prétentions excessives et déraisonnables, mais d'être raisonnable pour avoir de la modération. Chacun selon la mesure de foi que Dieu lui a départie. En effet, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Mais nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée. Si c'est la prophétie, que ce soit en accord avec la foi. Si c'est le diaconat, que ce soit dans un esprit de service. Que celui qui enseigne s'attache à l'enseignement. Celui qui exhorte à l'exhortation. Que celui qui donne le fasse avec simplicité. Celui qui préside avec empressement. Celui qui exerce la miséricorde avec joie. que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en erreur. Attachez-vous fortement au bien par amour fraternel, ayez de l'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Ayez de l'empressement et non de la paresse. Soyez fervent d'esprit. Servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patient dans la tribulation. Persévérez dans la prière. Subvenez aux besoins des saints. Tâchez d'exercer l'hospitalité. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais soyez attirés par ce qui est humble. Ne soyez pas sages à vos propres yeux. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimé, mais laissez agir la colère. Car il est écrit, « À moi la vengeance, c'est moi qui rétribuerai, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur ta tête. Ne sois pas vaincu par le mal, mais vainqueur du mal par le bien. » Jusqu'ici la parole de Dieu. Amen. J'annonce tout de suite le plan de ce message qui porte sur la véritable adoration chrétienne. Retenez ces cinq mots, ou ces cinq étapes, ou ces cinq expressions qui définissent et qui nous aideront à vivre en véritable adorateur. La première, c'est la contemplation chrétienne. La deuxième, c'est l'allégeance chrétienne. Troisièmement, c'est le service chrétien. Quatrièmement, c'est l'amour fraternel chrétien. Et cinquièmement, c'est le témoignage chrétien. OK ? Regardez avec moi, pour parler justement de cette contemplation, les trois derniers versets de Romains 11. Donc ces versets sont la conclusion de tout l'exposé infaillible, magistral, inspiré par le Saint-Esprit des 11 premiers chapitres. La conclusion de Paul, où il vient pendant 11 chapitres de parler de la grâce de Dieu qui est venue pour sauver des hommes, la grâce de Dieu qui vient sauver des hommes de leurs péchés. Et là, il s'arrête sur une doxologie, si vous n'avez pas entendu ce mot, ça veut dire rendre gloire, une éloge adressée à Dieu. Et ce salut, ce qu'on apprend, c'est que le Dieu infiniment riche, on parle de la profondeur de la richesse, de la sagesse et de la connaissance de Dieu. Ayant expliqué le salut, il nous rappelle maintenant que le Dieu infiniment riche, infiniment riche, infiniment riche, une fois qu'il a accompli cette rédemption, il n'est pas devenu plus riche. Il n'est pas devenu plus pauvre. Dieu, certes, s'est humilié en la personne de Jésus-Christ, mais il est resté infiniment riche, infiniment riche. Il est aussi infiniment sage, tellement sage que rien dans ce monde, rien dans les cœurs, dans vos cœurs, ne lui est caché. Il est infiniment sage, tellement sage que le projet de salut qu'il a fait en envoyant son Fils unique mourir à la croix paraît une folie devant les hommes. Et pourtant, c'est par ce qu'on appelle cette folie. C'est par cette folie plus sage que même le plus sage de tous les hommes et toute la sagesse de l'humanité réunie dans un seul vers. Cette sagesse-là nous donne le salut. Ce Dieu, il est tellement sage, mais aussi infiniment plein de connaissances que même il connaissait tout ce qu'il allait se arriver dans ce monde. C'est des choses qui nous échappent. OK, je ne peux pas vous donner une réponse par A plus B égale C, développement CQFD, raisonnement par l'absurde et je ne sais pas quoi, pour vous dire pourquoi Adam et Ève ont péché, par exemple. Je ne peux pas vous dire précisément pourquoi Satan s'est rebellé, pourquoi il a laissé Satan s'introduire dans le jardin. OK. Mais ce que je sais, c'est qu'Adam et Ève ont péché, que nous, on a péché, qu'on est logiquement sous la culpabilité et qu'il a donné une solution pour le salut. Et il l'a prouvé en ressuscitant son Fils. Il l'a prouvé de cette manière. Et ce salut, il y a tellement de choses, chers chrétiens, que l'on ne comprend pas. on ne comprend même pas la Trinité, on n'est même pas capable de l'expliquer correctement. Tous les théologiens de toute l'histoire se cassent les dents. Pourtant, les vérités sont bien dans les Écritures, qu'il y a un Père, un Fils, un Saint-Esprit. Et que ces trois personnes, même si vous n'êtes pas capable d'expliquer la Trinité, ces trois personnes, si Dieu n'est pas trois personnes en un, le salut ne marche pas. Parce que c'est Dieu le Père qui vous a choisi avant la fondation du monde et qui vous a promis au Fils. C'est Dieu le Fils qui est venu s'incarner sur cette terre et donner sa vie. Et c'est le Saint-Esprit qui est venu souverainement appliquer la rédemption dans vos cœurs pour que vous puissiez voir que Christ est le salut. Vous voyez, votre salut est profondément trinitaire. Un Dieu infiniment saint, infiniment sage, infiniment éternel. Et que voit-on ? C'est que cette richesse, cette sagesse, cette connaissance, il les a mis à votre disposition. Pas parce qu'il est devenu en lui-même le Dieu trinitaire et est devenu à votre serviteur, mais parce que la gloire de Dieu s'est révélée en manifestant pleinement sa grâce, sa miséricorde, son amour et sa patience envers la création, envers le summum, le plus merveilleux de sa création, l'être humain, pour le salut. Un prédicateur américain a dit un jour, vous vous rendez compte que ce Dieu tout-puissant, plein de sagesse, infiniment riche, il a disposé l'univers, il a disposé les étoiles, il a placé la planète Terre avec les paramètres mathématiques. On voit qu'il y a des paramètres, s'ils étaient différents à quelques dixièmes près, il n'y aurait pas d'eau, il n'y aurait pas d'eau liquide sur Terre, il n'y aurait pas de vie. Il y a plein de choses qui ne fonctionneraient pas. Là, même si... Je parle en tant que fils de diabétique, je parle juste par exemple le fait que notre taux de sucre dans le sang se régule tout seul. Et ces choses-là, c'est le Dieu Tout-Puissant qui les a établies. Ces choses-là, de A à Z, ce Dieu Tout-Puissant, il a montré sa patience envers nous. Alors qu'est-ce que ça nous montre ? C'est que ce à quoi c'est censé nous faire réfléchir, c'est que la vie chrétienne, ce n'est pas une réservation Airbnb, où il suffit de quelques clics sur quelques minutes pour choisir où, combien de temps, avec qui je vais rester, et où ma seule responsabilité, c'est de me tenir là, indépendamment de ce que je fais, indépendamment de si je reste dans cette baraque et combien de temps j'y reste, où ma seule responsabilité, c'est tant que je mets les clés dans la boîte aux lettres et que j'ai laissé l'appartement en état. Et comme si, au fait, il y a une distance entre le propriétaire et moi. Non. La véritable vie chrétienne, le véritable chrétien n'est pas dans un Airbnb, mais a trouvé un refuge, un abri, une forteresse pour sa vie dans ce Dieu qui est glorieux. Le vrai chrétien peut proclamer avec assurance que sa vie est entre les mains du Dieu sage de toute sagesse et puissant de toute puissance. Et ce Dieu-là, c'est notre Dieu. Ce Dieu-là, c'est celui qui nous a sauvés. Ce Dieu-là, c'est celui qui prend soin de nous. Alors la première chose qu'on a à faire, la chose la plus importante, c'est de nous poser quelques minutes et de contempler Dieu. Quoi que nous fassions, peu importe le texte sur lequel vous allez méditer, vous allez rentrer ce soir ou après le culte et aller dans votre chambre, je vais passer du temps avec le Seigneur, alors qu'il y a tel problème dans ma vie. Si je me risque, par exemple, à prendre le psaume 22, par exemple, prenons les versets 25. Du verset 23 au verset 28, par exemple. « Je publierai ton nom parmi mes frères, je te louerai au milieu de l'assemblée. Vous qui craignez l'Éternel, louez-le, vous toute la descendance de Jacob, glorifiez-le, tremblez devant lui, vous toute la descendance d'Israël. Car il n'a ni mépris ni dédain pour les peines du malheureux, et il ne lui cache pas sa face, mais il l'écoute quand il crie à lui. Tu seras dans la grande assemblée la cause de mes louanges, j'accomplirai mes vœux en présence de ceux qui te craignent. Les humbles mangeront et se rassasieront, ils loueront l'Éternel, ceux qui le cherchent. Que votre cœur y ait toujours, toutes les extrémités de la terre se souviendront de l'Éternel et se tourneront vers lui. Toutes les familles des nations se prosterneront devant sa face, car le règne est à l'Éternel, il domine sur les nations. Si j'applique par exemple ce principe de la contemplation, ce premier point sur ce passage, qu'est-ce que ça m'apprend ? Ça m'apprend que ce Dieu est le roi qui règne de toute éternité, et que même s'il est le roi qui règne d'éternité et qu'il n'a aucun compte à rendre à qui que ce soit, c'est un Dieu qui se montre comme un Dieu miséricordieux, patient envers le pécheur, prompt à nous ramener à lui et prompt à nous donner un pardon parfait. Alors, la meilleure chose à faire dans nos détresses, quand nous sommes perdus, c'est de nous rappeler qui Dieu est. John Piper, un pasteur américain très connu, a écrit un livre qui s'appelle « L'adoration et la prédication ». Un autre théologien, peut-être que vous avez entendu parler, R.C. Sproul, il parlait à une conférence et la personne qui devait l'introduire avant sa prédication, elle a commencé comme ça. Alors, nous avons fini le moment d'adoration parce qu'il venait de chanter des chants. Maintenant, laissons la place au frère R.C. Sproul pour la prédication. Et R.C. Sproul, le pasteur, est devenu rouge de colère. Rouge de colère. Il était peut-être un peu sanguin à ce moment-là, mais il a dit « Arrêtez ce qui vient d'être dit. Enlevez ce qui vient d'être dit. » Parce que le moment d'adoration n'a pas pris fin. La prédication en elle-même est une adoration. Et même si à la fin de cette prédication, vous allez peut-être vous dire c'était trop long, c'était un peu brouillon, ce n'était pas structuré. La prédication, avant tout et à chaque fois qu'un frère ou une sœur va ouvrir sa Bible, avant d'être une exhortation, de dire fais ceci, fais cela, c'est d'abord de tourner les yeux et dire regarde Dieu, regarde Dieu. Vous allez peut-être vous casser les dents sur un passage que vous n'avez pas réussi à comprendre. Vous allez vous casser les dents durant votre vie chrétienne sur des épreuves sur lesquelles vous n'en comprenez pas le sens. Mais il y a une chose sur laquelle on ne va jamais se casser les dents en tant que chrétien, c'est de se rappeler quel Dieu, qui est le Dieu qui prend soin de nous. On ne sera jamais déçu si on se rappelle de cette réalité-là. Nous avançons au deuxième point sur les versets 1 et 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Regardez, dans les versets 1, on retrouve le langage de l'adoration, mais dans des termes qui parlaient particulièrement à des juifs de l'époque, et même à des juifs aujourd'hui, quoique. Il n'y a plus de temple à Jérusalem pour offrir des sacrifices. On croit que le sacrifice parfait est déjà venu une fois pour toutes, il y a 2000 ans à la croix. Mais on parle de sacrifice. On parle de culte raisonnable. Et si je devais paraphraser le premier verset du chapitre 12, il est en train de dire, à cause de ce qui Dieu est et à cause de ce que Dieu a fait pour vous, je vous encourage, chers chrétiens, à adorer le Dieu par le moyen de ses compassions. Dans la langue originelle, la formulation en grec est telle que les compassions, ce ne sont pas seulement des raisons pour lesquelles on doit l'adorer, mais aussi des moyens par lesquels on doit l'adorer. Okay. Peut-être que c'est un peu trop conceptuel tel que je l'explique comme ça. Laissez-moi vous donner une image. Là, en fait, dans le passage, les compassions de Dieu, c'est comme l'engrais, la bonne terre, le soleil et la pluie pour faire pousser votre pommier. Chaque véritable chrétien est une plante née de la semence incorruptible de l'Évangile. Ça, c'est un chrétien. Quelqu'un qui est né de Dieu. Comme disait Jésus, si quelqu'un ne naît d'eau et d'esprit, il n'entrera pas dans le royaume de Dieu. Et chacun de ces aspects, chacun de toutes les bénédictions que Dieu nous donne par l'Évangile, ce sont ces choses qui nous aident à vivre d'une manière qui plaît à Dieu. Le chrétien, c'est une plante qui est enracinée dans sa nouvelle identité d'enfant de Dieu, car Dieu l'a adoptée. Le chrétien, c'est une plante dont la soif, elle est étanchée par le pardon que Jésus lui a donné à la croix. Les torrents d'amour, les torrents de bénédiction qui ont coulé. Sa nourriture, les nutriments qui font grandir le chrétien, c'est la justice, c'est de savourer la justice, la bonté et la sagesse parfaite du Christ. Pas la nôtre, celle qu'il a faite. Face à mes imperfections, qu'est-ce que je peux faire sinon de me dire « Seigneur, transforme-moi » mais aussi de me dire « Seigneur, merci parce que tu es venu et tu n'as pas été comme moi. Tu as été ce que tu as été et tu as fait ce que je devais être et ce que je devais faire. » Et la lumière qui vient nous éclairer, c'est la lumière du Saint-Esprit et de la parole qui l'aide à persévérer, même dans le deuil, même dans le désert spirituel le plus aride. Et franchement, c'est une image qui me parle énormément. Je ne sais pas si vous saviez ça. Peut-être un petit rappel de cours de biologie. Je sais qu'il y a Jean-Philippe devant moi, ça me fait un peu peur. Vous savez que logiquement, les plantes, elles ont et la respiration et la photosynthèse. La nuit, elles respirent du dioxygène et elles rejettent du CO2. Mais que fait la plante aussi? C'est que le processus de photosynthèse, c'est que via la lumière, elle est capable aussi de transformer le CO2 pour pouvoir l'utiliser en énergie, pour pouvoir plus tard continuer à subvenir. Okay, j'ai essayé de la faire très très simple et très très brouillon. Et donc même vous, dans votre nuit, si vous êtes chrétien, dans la nuit de l'âme, dans le désespoir, il y a toujours le Saint-Esprit, par le moyen de la parole, qui vient vous rappeler « Tu es enfant de Dieu, Christ est mort pour toi. Ce que tu fais n'est pas bien aussi, mais aussi voilà comment tu peux bien agir. » Comme l'avait promis Jésus dans Jean 13, à Jean 16, le Saint-Esprit viendra, vous rappellera tout ce que j'ai enseigné. Le Saint-Esprit viendra et convaincra le monde de péché. Le Saint-Esprit viendra et vous montrera que je suis le Messie, que je suis digne d'adoration et qu'en dehors de moi, il n'y a point de salut. Alors quand on lit ce verset 1, c'est impossible de réduire l'adoration à un pur sentimentalisme ou à un effet émotionnel. Continuons de chanter. Il y a plein de psaumes qui nous disent de chanter. Mais le chant qui doit résonner le plus fort, c'est le chant de notre vie. Pas juste notre vie en vous mettant un fardeau pour vous dire « agissez bien », mais c'est le chant d'un chrétien qui a sa pleine assurance dans l'amour de Dieu qui a été manifesté à la croix. Cette chose-là, rien ne peut le changer. Rien ne peut le changer. L'apôtre Paul commence le chapitre 8 de Romains en disant « Il n'y a plus de condamnation ». Et il finit le chapitre 8 de Romains en disant « Rien ne pourra nous séparer de l'amour que Dieu a manifesté en Jésus-Christ. » Rien, rien, rien. Alors voilà ce qui devrait nourrir et nous aider à avancer dans une véritable adoration chrétienne. Regardez le verset 2. L'apôtre Paul met en opposition d'une part, ça dépend de la traduction que vous avez dans vos Bibles, le monde présent ou le siècle présent, d'une part, et d'autre part, le renouvellement de l'intelligence ou le renouvellement de la pensée, ça dépend aussi de vos versions. Il y a ici une erreur majeure, surtout quand on parle d'allégeance chrétienne, c'est ce dont il est question ici, dans ces deux premiers versets. Il y a une erreur majeure que j'aimerais vous éviter. Et même si vous êtes expérimenté dans la foi, et surtout pour moi-même, c'est un bon rappel, vous l'avez vu vous-même, ce n'est pas parce que vous êtes né de nouveau que ça va être facile. Ce n'est pas parce que vous êtes né de nouveau que les choses vont aller comme sur des roulettes. Non. En tant que chrétien, on n'est pas des roulettes, on est plutôt des roues en pierre. Et en fait, il y a un bord qui est un peu carré, ça coince un peu quand on avance un peu, quand on avance un peu sur quelques mètres. Non, ce n'est pas parce qu'on est né de nouveau qu'on doit s'attendre à ce que tout aille bien, qu'on comprenne tout. C'est très important parce qu'en tant que chrétien, je parle, peut-être, je ne sais pas, que ça me parle un peu plus, moi étant plus jeune que la majorité d'entre vous, quand je vois que ma vie, à certains moments, que mes mots n'est pas en conformité avec la volonté de Dieu, et je commence à me rentrer dans une forme de grosse culpabilité qui peut-être est injustifiée, quoique la Bible nous appelle à nous questionner sur la manière dont nous vivons. Cette culpabilité qui me dit « Mais attends, si je suis né de nouveau et que l'Esprit de Dieu habite en moi, ne suis-je pas censé vivre d'une manière... » C'est pas censé aller tout seul. C'est pas comme ça que Dieu nous appelle à vivre. Ça aurait été super cool, mais dans sa sagesse et sa bonté, ce n'est pas comme ça que Dieu a décidé. Dieu nous a... Quand on est né de nouveau, il nous a fait de telle manière que nous pouvons encore, malheureusement, continuer à pécher. Que nous pouvons continuer à nous égarer, quoique les élus ne perdront jamais réellement le salut, parce que vraiment nés de l'Esprit, l'Esprit les ramène et les amène à la repentance. Alors, la chose à faire dans notre allégeance chrétienne, cette deuxième étape de notre véritable adoration, de notre véritable vie d'adoration, c'est de vous imbiber. C'est de nous imbiber du Christ, nous imbiber de sa parole. Quelque part, c'est un peu de vous dire, en fait, la deuxième application de ce message, c'est de revenir à la première. Nous imbiber du Christ. Je prends mon exemple en tant que jeune qui a un accès rapide à la technologie, et même avec mes camarades de classe et ceux qui ont la même tranche d'âge. Comment je fais pour savoir qu'est-ce qui se passe dans la tête de mes amis? C'est très, très simple. On prend le téléphone. On regarde les suggestions sur les réseaux sociaux. On regarde les suggestions sur YouTube. On prend aussi, on fait une synthèse de la plupart des choses qui sortent de la bouche de cet ami quand on ne parle pas de la Bible. Ou peut-être même qu'on ne parle même pas de la Bible. Ces trois choses-là suffisent à savoir, OK, il fait quoi à peu près avec son temps libre? Ok. Là où je veux en venir, ce n'est pas de dire que l'allégeance chrétienne signifie de ne pas avoir de temps libre. Mais là où je veux en venir, et c'est tellement clair dans les Écritures, le psaume 119 nous parle de la parole comme d'une lampe à nos pieds. On l'a chanté aussi tout à l'heure. Là où je veux en venir, c'est que si nous ne nous laissons pas imbiber, transformé par la lecture et par la prière, il y a plein de choses dehors. Il y a plein de choses là-dedans. Il y a plein de choses qui sortent de la bouche de nos contemporains. Il y a plein de choses qui passent sur la télé, plein de choses qui arrivent sur les écrans. Et ces choses-là, elles vont se faire un malin plaisir. Elles ne vont pas hésiter pour venir à l'intérieur de votre pensée et l'influencer. Moi, je me souviens une fois, j'étais très étonné. Je dis une fois, mais c'est quelque chose qui arrivait régulièrement parce que, encore une fois, l'exhortation, c'est quelque chose sur le long terme, quelque chose qu'on est appelé à cultiver. Ça m'est arrivé, je suis en train de prier, ou moi, j'essaye de prier, ça faisait moins de 5 minutes que je suis dedans, et tout à coup, il y a une pensée, un petit papillon qui arrive, et en fait, ta partie d'échec de tout à l'heure, tu aurais dû faire avancer ton pion au lieu de faire avancer ton cheveu. Vous voyez ce que je veux dire? On essaye de prier. Il faut que je pense au poulet quand je vais inviter ma voisine le lendemain. J'essaye de lire la Bible et oui, c'est vrai, il faut que j'envoie un message à Tantine pour lui envoyer un message de bonne année, qui est une bonne chose en soi. Mais je donne juste quelques exemples pour montrer à quel point notre pensée est facilement influençable. N'est-ce pas? Alors, laissez-moi finir avec un dernier exemple sur cette deuxième exhortation. Je sais que la plupart d'entre vous êtes encore étudiants ou travaillez encore. Je ne crois pas, et je parle pour moi-même, Je ne crois pas que vous vous levez chaque semaine, chaque matin, pour aller travailler 35 heures par semaine ou plus, parce que ça vous fait plaisir et parce que vous êtes motivé. Je ne crois pas que personne n'est comme ça. Sauf des gens à qui Dieu a fait une grâce particulière. Non, vous le faites parce que si vous ne le faites pas, vous n'aurez pas ce qu'il faut pour vous nourrir, payer le loyer, prendre soin de votre famille, n'est-ce pas ? Vous voyez à quel point l'argent est important dans ce contexte. Et ce n'est pas mauvais. La Bible ne dit pas « l'argent est la racine de tous les maux », elle dit « l'amour de l'argent est la racine de tous les maux ». C'est important à rappeler. Si je prends cet exemple-là, et pourtant vous savez, en tant que chrétien, si vous êtes chrétien, que la santé de votre âme est plus importante que votre santé physique. Alors à combien plus forte raison ne devrions-nous pas, pour avancer dans notre vie chrétienne, prêter quotidiennement notre allégeance, montrer quotidiennement allégeance au Dieu souverain que nous avons contemplé. Alors, la prière et la lecture, les amis. La veuve de la parabole du juge inique, elle n'a pas supplié le juge inique de lui faire justice parce qu'elle était motivée et que ça lui plaisait. Elle l'a supplié parce que c'était une veuve en Israël, elle n'avait personne pour prendre soin d'elle, même si le texte ne nous donne pas exactement les détails au sujet de quoi elle s'est adressée vers le juge. Elle l'a fait parce qu'elle était désespérée. Alors, les amis, sans ça, on perd de vue. On perd de vue le Dieu qui prend soin de nous. On ne va pas tenir longtemps. On va vite s'essouffler. Sans ça, on ne pourra pas connaître la volonté de Dieu. Et alors qu'en plus, on nous parle de la volonté de Dieu qui est bonne, agréable et parfaite. Dieu est un Père qui veut que l'on connaisse, qu'on vive et qu'on prenne plaisir dans ce qui est bon, agréable et parfait. Alors. Les trois parties, si j'ai le temps de le faire, seront beaucoup plus courtes, ne vous inquiétez pas. C'était très important de s'attarder sur ces deux premières portions parce que sans elles, tout ce qui va suivre, c'est juste du légalisme. Je vais juste vous apprendre à comment, un peu comme un livre de savoir-vivre dans l'Église. Sauf que notre vie chrétienne, ce n'est pas une vie de savoir-vivre. C'est une vie de joie et de bonheur et de trouver son plaisir dans le Dieu qui nous a sauvés. Voilà la vie chrétienne. Alors, parlons maintenant dans les versets 3 à 8, légèrement de ces dons. Je ne vais pas faire une théologie complète de qu'est-ce que c'est les dons spirituels et comment ça fonctionne. Parce qu'en soi, même si c'est le deuxième passage le plus clair ou qui cherche à être le plus exhaustif par rapport aux dons spirituels, 1 Corinthiens 12 à 14 étant le premier, il y a quand même un principe, des principes très importants que, indépendamment de nos compréhensions sur les dons et ou des miracles et plein d'autres choses qui peuvent nous servir aujourd'hui. Et c'est la question du service et c'est un service par l'humilité. Ou plutôt, dire, si je vais dire la chose autrement, plutôt qu'un service par l'humilité, le service consiste à honorer l'épouse de celui qui a donné sa vie pour nous. Partout où il y a corps de Christ, partout où il y a véritablement chrétien réuni, né de nouveau, il y a véritablement épouse du Christ. Rappelons-nous ce que Dieu a dit par la bouche de l'apôtre Paul en Éphésiens 5, parlant par exemple en prenant l'imagerie du mariage. Marie, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église. Il a donné sa vie pour elle. Il la sert, l'ayant purifiée par le bain purificateur de la nouvelle naissance. Il prend soin d'elle pour qu'elle bute, pour qu'à la fin du monde, il puisse se présenter devant elle, cette Église, son épouse, sans tache ni ride. Si c'est à ce point-là que Dieu aime et prend soin de l'épouse, alors à combien plus forte raison, indépendamment des difficultés qui peuvent être les nôtres, nous devrions garder ça en tête. Même avec cette assemblée ou ces frères, où qu'ils se trouvent, qui parfois je ne comprends pas comment ils peuvent penser comme ça ou comment ils peuvent agir comme ça, de se rappeler c'est l'épouse du Christ, que Christ est en train actuellement de purifier s'ils lui appartiennent vraiment. Et il va faire une œuvre glorieuse. Et même si aujourd'hui, si je pouvais avoir un tête-à-tête ou parler en toute franchise avec Dieu par moment, je me dis, Seigneur, franchement, je t'avoue que ça me prend la tête. Au moins, croyez-le, on va se réjouir à notre mort quand on sera en haut, dans la présence du Seigneur et dans les nouveaux cieux et les nouvelles terres, et de voir comment Dieu aura fait une œuvre magnifique. Ça, à cause de la mort la résurrection de son Fils. Alors, on ne peut pas le négliger. On ne peut pas la négliger, l'épouse. Voici ce qu'on peut voir dans le verset 3. Paul commence avec son propre appel, en fait. Avant de parler des dons spirituels en eux-mêmes, il commence avec son propre appel, à savoir le ministère apostolique. Et ce qu'on peut voir, sans trop détailler, plusieurs choses. Premièrement, son ministère est un don de Dieu. Il ne l'a pas mérité. Deuxièmement, son ministère, c'est une décision souveraine. Il ne l'a pas négocié. Troisièmement, son ministère, il doit l'exercer et il est chargé de l'exercer. Ce n'est pas optionnel. Et quatrièmement, c'est un ministère qui sert l'Église. Ce n'est pas pour son ego, ce n'est pas pour son estime de lui. Je ne sais pas quel est votre don spirituel à chacun d'entre vous. Je ne sais pas quels sont les projets merveilleux que Dieu a prévus d'avance pour prendre soin de vous et les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance afin que vous les accomplissiez. Je ne sais pas ce qu'il a prévu du tout pour chacun d'entre vous. Mais ce sont quatre principes vraiment que j'essaye de vous laisser de façon succincte ici pour vous aider à avoir un vrai service chrétien, pour vous aider à honorer l'épouse de celui qui vous a sauvé. Si le ministère est un don de Dieu et qu'on ne l'a pas mérité, ça veut dire que non seulement je devrais essayer de connaître quels sont les dons que Dieu m'a donnés, mais aussi que je devrais essayer aussi, dans une certaine mesure, d'être proactif et intentionnel pour aider les autres à exercer leurs dons, pour aider les autres dans ce service-là. Ce ministère est une décision souveraine et qu'il ne l'a pas négocié pour l'apôtre Paul, ça veut dire qu'avec une identité affermie dans ce que Jésus-Christ a fait et non pas dans le don qu'il a décidé de me donner, je ne devrais pas chercher à avoir un autre don ou à avoir un autre service, parce que je risque de me retrouver dans une fonction qui n'est pas celle à laquelle Dieu m'a appelé. Et si Dieu ne m'a pas appelé, l'Esprit Saint ne va pas me qualifier pour ces choses-là. Ne m'a pas qualifié, je risque de les faire et de les faire très très mal. Et il y a énormément d'églises où on met tellement l'accent à inviter les gens à se plonger dans le ministère ou se plonger dans un quelconque service, que ce soit le diaconat ou je ne sais pas quel autre service. Et on invite les gens, on se précipite à les envoyer, sans même s'assurer que c'est peut-être vraiment quelque chose auquel Dieu les a appelés, et ils se retrouvent dans une fonction qu'ils font mal et qui fait énormément de dégâts au sein des églises. Les gens qui partent à cause, par exemple, un responsable qui peut-être a des dons d'enseignement, mais qui a un caractère tellement abject et qui est incompatible avec le ministère, ça ne veut pas dire que Dieu ne l'a pas appelé, ça veut dire qu'à ce moment-là, il n'était pas prêt pour y entrer, qu'il y avait d'abord du travail à faire. Et malgré ces dons n'ont pas surpassé le fait que, sur le plan du caractère, il n'était pas qualifié. Et il a fait plus de mal que de bien à l'Église. On pourrait dire ça pour les diacres. On pourrait dire ça, par exemple, j'ai vu plusieurs églises, moi-même où j'ai grandi dedans, où on donnait des fonctions officielles à des gens qui n'étaient pas convertis, en se disant, ça va les investir, ça va les garder dans l'Église et ça va les convertir. Non. Un bouc, tant qu'il n'a pas été transformé en brebis du Seigneur, reste un bouc et il va faire du mal autour de lui. On en prend soin, mais on ne lui donne pas la nourriture, on ne lui donne pas la fonction qui ne lui convient pas. Si je prends... Si je prends le fait que c'est un don qu'on doit exercer et que c'est un ministère qui sert l'Église, dans notre service chrétien, c'est un excellent rappel de nous dire quoi que vous fassiez, il s'agit vraiment de prendre soin de vos frères et sœurs. Prenons soin de nos frères et sœurs. Croyez-moi, je vis à la faculté Jean Calvin, il y a une vie communautaire qui est extraordinaire au sein de la faculté. Il n'y a pas que des étudiants en théologie, on est à peu près une trentaine à habiter là. On est moins de 10 étudiants en théologie, mais la plupart des autres étudiants sont chrétiens. Il y en a, ils ont un esprit de service fou. N'importe quelles églises les aimeraient comme diacres. Il y a des pasteurs qui paieraient, entre guillemets, je parle de façon imagée, paieraient une fortune pour avoir ces gens-là, pour les aider à les alléger dans leur ministère. Il y a des gens qui ont des capacités relationnelles extraordinaires. Ils peuvent parler des heures avec plein de monde, sans que leur batterie sociale descende, sans avoir un mal de tête. Et il y a des gens, peut-être, qui ne sont pas aussi sociables, voire pas sociables du tout, mais qui sont en marge dans leur foi chrétienne. Et peut-être qu'on les voit une, deux, trois fois dans la semaine, mais c'est une, deux, trois fois dans la semaine, ils vont à la rencontre des gens, de certains chrétiens ou de certaines personnes qui ne connaissent pas le Seigneur. Et cette discussion, cette seule fois où ils sont sortis de leur chambre, c'est quelque chose que Dieu a utilisé pour les amener, pour en amener au salut, pour en affermir des chrétiens qui étaient désespérés. Alors, vous n'êtes pas forcément appelés à l'anciennat, au diaconat ou à un ministère avec un nom et un titre et une étiquette. Mais chaque geste, chaque chose que vous pouvez faire, que ce soit une prière après un culte, que ce soit un message pour prendre des nouvelles, que ce soit une accolade de joie parce que ça fait longtemps que vous n'avez pas vu cette personne, croyez-moi, Dieu peut l'utiliser pour encourager son épouse et l'aider à grandir. On avance au verset 9 à 16, l'adoration par l'amour fraternel, aimer les frères et sœurs. Et à travers le domaine des dons spirituels, là où Paul exhortait les Romains à adorer Dieu en ayant une vie tournée vers les autres, tournée vers l'épouse, nous allons voir que dans la suite de ce passage, nous sommes appelés à faire un sorte de zoom arrière de « Ok, comment encore plus largement aimer les frères et sœurs ?» Trois choses. Les versets 9 à 11, l'intentionnalité. Nous sommes appelés à faire le bien et à fuir le mal. Le verset 10 nous appelle à ajouter en nous de l'affection pour les frères et sœurs, pour concrètement les aimer, jusque dans nos sentiments et nos émotions. Ce n'est pas juste « je vais dire bonjour à tel frère et telle sœur » et comme ça, dans mon petit carnet interne, ou que peut-être j'ai un carnet physique, je dis « est-ce que j'ai dit bonjour à cette personne ?» C'est checké, c'est fait. « Ah, je suis pas mal aujourd'hui, je suis spirituel. » Non. Quand avons-nous prié pour la dernière fois pour être encouragé en voyant un frère et sœur? Quand avons-nous pour la dernière fois mis les pieds dans l'église et on a senti comme l'esprit qui a fait tressailler Jean-Baptiste encore dans le ventre quand Marie est venue à la rencontre de sa cousine Élisabeth, je sens que le bébé est en moi et rempli de joie. Et nous qui sommes tous enfants de Dieu, si nous avons placé notre foi en Jésus-Christ, ne devrions-nous pas avoir les mêmes sentiments, les mêmes émotions, les mêmes affections? Même si certes, ce n'est pas au même niveau. Je ne vais pas débarquer le mois prochain et voir Jean-Philippe et pleurer comme si j'ai vu le Messie. Tu n'es pas le Messie. Mais je peux m'avancer, le regarder et dire « Waouh, Seigneur, merci d'avoir pris soin de lui. Voilà un frère comme moi, né du même esprit que moi, que tu as envoyé. Et c'est mon frère. Et on se verra dans l'éternité. » ne sont-ce pas les sentiments, les émotions qui devraient nous transporter à la vue de l'épouse ? Pour ce qui est du soin, nous sommes appelés à utiliser les circonstances difficiles des frères et sœurs comme des tremplins pour prendre soin d'eux, prier pour eux, prier avec eux, prendre soin des croyants dans le besoin. Le verset 12 nous dit de tâcher d'exercer l'hospitalité dans ma traduction, mais en fait, si je traduis très très littéralement le grec, ça veut dire poursuivez l'amour de l'étranger. Prendre soin. Jacques parlait de la religion pure qui plaît à Dieu, c'est de prendre soin des veuves et des orphelins. Et dans l'histoire de l'Église, dès les premières heures, dès l'Antiquité, on parle d'à quel point les chrétiens, même persécutés, étaient appréciés des peuples qui les entouraient à cause de leur bonté excessive à leurs yeux. Des chrétiens qui sont morts, par exemple, durant des épidémies, parce que là où toute la population décidait de rester dans le cloître pour ne pas tomber malade, il y avait des chrétiens qui sont sortis dans les rues pour nourrir et prendre soin au péril de leur propre vie. Je ne dis pas littéralement voilà ce que nous devrions faire, mais plutôt voilà un bel exemple de manifestation concrète de comment les chrétiens prennent soin les uns des autres. Et rappelons-nous, toutes ces choses, même si là peut-être que vous avez l'impression que j'enchaîne exhortation sur exhortation et exhortation, en fait il s'agit que d'être des reflets de ce que Dieu a fait pour nous. D'être des reflets du Fils de Dieu qui siégeait de toute éternité dans la présence de son Père. Et ce Fils qui est descendu dans ce monde, Philippiens 2 nous parle de ce Fils qui s'est humilié. Il n'a pas regardé son égalité avec Dieu le Père comme une proie à arracher, mais il s'est humilié lui-même jusqu'à l'obéissance de la mort sur la croix. N'est-ce pas quelque chose qui peut nous encourager ? Seigneur, tu as fait une folie aux yeux des hommes. Alors aide-moi à être un reflet de cette folie à leurs yeux, qui est en fait la manifestation de l'amour infini et de la miséricorde infinie et de la bonté infinie du Dieu qui se révèle dans les Saintes Écritures et qui est venu à ma rencontre le jour où j'ai cru que en son Fils, j'ai le pardon des péchés et que c'est quelque chose que je n'ai pas mérité. N'est-ce pas merveilleux ? Troisièmement, l'humilité, verset 16. Je lis juste le passage. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais soyez attirés par ce qui est humble. Ne soyez pas sages à vos propres yeux. Nous ne devrions pas chercher sans cesse à nous distinguer des autres. Je ne suis pas, pour donner mon propre avis, je ne suis pas un très très grand fan de l'œcuménisme. Je ne suis pas un très très grand fan du fait de croire qu'on croit exactement tous la même chose et on fait comme si de rien n'était. On peut être en accord, on doit être en accord sur le véritable évangile. Le salut par la grâce, le salut par le moyen de la foi, le salut en Christ seul, pour la gloire de Dieu, et cette vérité se révèle dans les Saintes Écritures, étant la parole de Dieu. Certes, mais tout ce qui dépasse ce cadre-là, on ne devrait pas en faire un cheval de bataille. Certes, par exemple, pour des responsables, entre églises, quand on cherche avec qui collaborer, avec qui aller évangéliser, avec qui prendre soin des autres croyants, c'est important de se dire, ok, est-ce que tu es sûr que si on va évangéliser, toi, tu ne vas pas, par exemple, aller imposer des mains et prier pour des guérisons dans la rue systématiquement ? C'est sûr que là, par exemple, si on a des points de vue différents, ça peut être un peu compliqué. Encore une fois, notre pensée devrait plutôt être ceci vis-à-vis des frères et sœurs, pour les aimer concrètement. Christ a donné sa vie pour ce frère, pour cette sœur, comme il l'a fait pour moi. Pourquoi chercherais-je à me montrer sans cesse comme meilleur que lui, comme si j'avais quelque chose en plus qui a fait que Jésus ait donné sa vie pour moi et que j'ai reçu le salut et pas un autre ? Jésus n'est pas venu donner sa vie pour des baptistes réformés, des réformés évangéliques, des pentecôtistes ou que sais-je. Jésus est venu donner sa vie pour des pécheurs et c'est ce que nous étions tous. Tenons fermement nos convictions, elles sont nécessaires. Parce que l'apôtre Paul, en acte 20, il parle de cette nécessité qu'il avait imposée par Dieu et qu'il appelle tous les anciens, tous les pasteurs de toute cette terre à annoncer tout le conseil de Dieu. Et tout le conseil de Dieu, ça veut dire même ces passages et ces doctrines que j'ai du mal à piger. En revanche, l'apôtre Paul disait aussi dans l'épître aux Philippiens, « Si vous différez en quelques points, au moins continuez de marcher et l'Esprit vous éclairera. » L'humilité nous aide à voir ce qui est important, sur quelle colline il faut se battre et donner sa vie, et sur quelles choses on peut essayer de convaincre et de discuter les uns les autres, mais de dire, bon, ça fait rien, t'es pas moins chrétien que moi. Ton Christ est mon Christ aussi. Et j'avance sur le dernier point, ce sera le dernier point de ce matin, sur l'adoration par le témoignage devant les non-croyants. L'adoration, c'est un témoignage. Et je m'étais même risqué à appeler ce dernier point une proclamation. Finalement, en fait, quand on regarde les versets 17 à 21, peut-être que vous avez vu, et même juste avant, des échos, peut-être avec le serment sur la montagne. L'erreur que je pourrais faire et qui rendrait cette prédication encore trop longue, c'est de rentrer encore dans le détail. Mais en fait, l'apôtre Paul, ici, il reprend dans une certaine mesure tout ce que j'ai déjà annoncé jusqu'à présent. Il est en train de dire « Vivez ces choses avec, devant les non-croyants, parce que les non-croyants ne les connaissent pas. Les non-croyants ne connaissent pas la miséricorde comme nous la connaissons. Ils ne connaissent pas l'assurance de la vie éternelle comme nous la connaissons. » On est en 2026 et je ne vous apprends rien que un homme et une femme qui s'aiment dans le mariage et qui tiennent une alliance jusqu'au bout, ils n'ont pas l'habitude. La moitié des mariages en France qui finissent par une séparation. Les non-chrétiens, quand ils vont en entreprise, vous en avez croisé, vous en croiserez encore, ce ne sont peut-être pas tous, et ça je l'admets, mais les non-croyants se jouent du coude pour accéder à des positions de pouvoir. Les non-croyants se parlent dans le dos les uns des autres. Les non-croyants ne connaissent pas le Sauveur que nous avons. Et en vivant ces choses, nous faisons une véritable adoration. En vivant ces choses, nous leur montrons qui est le Dieu que nous avons contemplé, qui est le Dieu à qui nous avons prêté allégeance, que nous sommes cette Église qu'il chérit comme son épouse, comme la prunelle de ses yeux, que nous prenons soin non seulement d'elle, mais nous prenons soin individuellement des croyants. Et nous les appelons à quelque chose qu'ils n'ont pas, que nous avons, et qui est un sujet de joie permanent pour nous en tant que chrétiens. Réjouissons-nous dans le Seigneur. Réjouissons-nous dans ce que Christ a fait pour nous. Je vous invite à la prière. Mon Seigneur, mon Dieu, notre Seigneur, notre Dieu, notre ferme espérance, couronne de joie et de justice, délice éternel de mon âme, de notre âme. Que notre chant et notre joie soient de contempler Christ. Seigneur, on voit nos péchés, on voit nos difficultés, des difficultés desquelles nous sommes directement responsables individuellement et aussi les difficultés, les injustices que nous subissons ou le mal que l'on voit pour lesquels on n'a pas directement de responsabilité. Seigneur, on peut être si facilement submergé. Mais je te prie que tu nous rappelles encore quel est ce glorieux amour. Seigneur, donne-nous une plus grande vision de toi. Seigneur, face à nos imperfections, nous sommes comme Moïse, après le péché du peuple d'Israël, d'idolâtrie. Seigneur, fais-nous voir ta gloire. Seigneur, fais-nous voir la grandeur de tes attributs, du fait que tu ne changes pas, tu es saint, tu es plein d'amour, tu es patient, tu es lent à la colère, tu es miséricordieux. Seigneur, je te prie que toutes ces choses, par le témoignage intérieur de ton Saint-Esprit que tu as placé en nous, par lequel tu nous as tous baptisés, je te prie que tu les ancres et que tu nous aides à prendre plaisir en ces choses afin que nous puissions marcher d'une façon qui te plaise. Seigneur, rends nos moments de piété personnelle et en famille, quand nous ouvrons la Bible, quand nous prions, que ce soit pour une heure ou pour cinq minutes, je te prie que tu les rendes efficaces. Nous avons chanté que ta parole est une épée à double tranchant. Viens trancher les faux raisonnements. Viens façonner notre âme, nos pensées, renouveler nos pensées afin que nous soyons de plus en plus et toujours plus influencés par les choses bonnes, agréables et parfaites de ta volonté et moins par le monde. Seigneur, bénis cette assemblée. Et je te prie que tu ancres dans nos cœurs toutes ces vérités, ne serait-ce qu'une seule vérité. Au nom de Jésus, notre Seigneur, notre Sauveur, notre grand prêtre, celui qui est à ta droite et qui intercède pour nous. Amen.